Parlant d'étincelles dans une botte de foin, il y a une élection américaine dans exactement 8 jours.
Ouais.
Et dans exactement une semaine, lundi, le 2 novembre, ce sera la dernière journée de campagne électorale entre Joe Biden et Donald Trump. On va faire le point immédiatement avec notre chroniqueur du 17h40 qu'on devance un peu pour cause de COVID. Raphaël Jacob est là. Salut, Raph.
Salut, messieurs.
OK. Je veux parler du vote par anticipation. Là, on sait qu'il y a eu des taux de participation historiques. Qu'est-ce que ça donne à penser pour, disons, l'issue du vote?
Mais ça donne à penser d'abord et avant tout que ce dont toi et moi on se parle depuis un an, là, c'est en train de se concrétiser. C'est-à-dire qu'il y a déjà un an, je sais pas si tu te rappelles, mais on se parlait à l'émission du fait que les sondages indiquaient un niveau d'enthousiasme qui était sans précédent en vue de l'élection de 2020. On sondait les Américains à l'automne 2019 et ils étaient déjà plus enthousiastes à l'idée de voter en novembre 2020 qu'ils ne l'étaient lors, écoute, des jours précédant les élections passées. Autrement dit, on les sondait une semaine, 3 jours avant le vote en 2008, en 2012, ils étaient moins enthousiastes à l'idée de voter qu'ils ne l'étaient à un an du vote cette fois-ci. Donc là, ce qu'on voit, c'est clairement ça. C'est aussi très, très cohérent, je te dirais, avec ce qu'on a vu pendant les élections de mi-mandat en 2018. On a eu les élections de mi-mandat avec le plus haut taux de participation en un siècle. Donc, écoute, la passion, les passions sont très fortes. Et là, on est en train de voir, écoute, aujourd'hui, normalement, on devrait dépasser le cap des 60 millions d'électeurs qui vont avoir voté par anticipation. Et ça, juste pour donner un petit ordre de grandeur, là, on va approcher la moitié du nombre total de votes qui ont été dépouillés en 2016. À peu près 140 millions, un peu moins de 140 millions. Là, on est rendu à peu près 60 et il reste encore 7 jours de vote par anticipation. Donc, on risque de dépasser la moitié. C'est incroyable.
Ce qui est incroyable aussi, Raphaël, c'est le nombre de jeunes de 18 à 29 ans qui ont voté. Il y a des chiffres qui ont été publiés cette semaine-là. En Floride, par exemple, un État clé, en 2016, à ce moment-ci, il y avait 44 000 jeunes qui avaient voté, 257 000 cette année. Même chose en Caroline du Nord, 25 000 il y a 4 ans, 204 000 cette année. Michigan, autre État clé, 7 000 il y a 4 ans, 145 000 cette année. Et évidemment, les jeunes, là, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une majorité, une pluralité de ces votes. Là, qui soit pour Joe Biden.
Une très forte majorité. Et c'est drôle, Philippe, que tu mentionnes ça parce que j'ai eu la chance de lire certains des articles que tu as écrits dernièrement dans la presse sur notamment la comparaison que tu faisais entre l'élection de 2020 et celle de 1932, où le président Roosevelt avait été élu. Puis je disais, en fait, en fin de semaine, je retournais dans les archives, puis ce qui était fascinant, c'est que une des choses qui a fait la différence pour le président Roosevelt dans les années 30 et qui a été élu avec des très, très grosses marges, c'était en fait le nouvel électorat, les jeunes qui s'étaient joints donc à l'électorat, qui 2 ans, 3 ans auparavant pouvaient pas voter, là ont commencé à voter et la première fois qu'ils votaient en 32 puis en 36, se sont rangés massivement du côté démocrate, du côté du parti du président Roosevelt et ça a été une grosse partie de ces victoires-là. Donc est-ce que ça va être la même chose pour Joe Biden? C'est une question qui se pose présentement.
Raphaël, tantôt, Philippe est extrêmement cynique face à Occupation double. Moi, je suis un peu cynique. Je suis un peu cynique face au processus électoral américain. Écoute, il y a 4 ans, Donald Trump n'était pas donné gagnant, loin de là, à une semaine du vote. Le jour de l'élection, on se rappelle tous des sondeurs qui donnaient Mme Clinton gagnante. Et là, oups, quelques États-clés ont pas voté du côté de Mme Clinton. Et boum, le jeu du collège électoral a fait que même si Trump a perdu le vote populaire, il a gagné la présidence. Qu'est-ce qui pourrait être la surprise d'ici une semaine?
Ben, surprise, présumant qu'on s'attend à ce que Biden gagne. La surprise principale, en fait, ça serait un petit peu ce qu'on a eu il y a 4 ans. Tu sais, c'est fascinant parce que on l'oublie, en fait. Il y en a qui l'ont oublié, il y en a que moi qui s'en sont malheureusement rappelés, mais pendant la soirée électorale, en 2016, tu sais, vous évoquiez des États comme la Caroline du Nord et la Floride. Ben, on avait plus de 85% des votes qui avaient été dépouillés en Floride, Clinton était encore en avance. On avait plus de 50% des votes qui avaient été dépouillés en Caroline du Nord, Clinton était en avance. Ce qui s'est passé, c'est que les votes qui ont été comptés très tard dans la soirée, qui étaient majoritairement des votes qui avaient eu lieu en personne et non pas par anticipation, ben ça a été massivement dans le camp Trump. Donc, si on a une surprise cette année, ce serait peut-être ça. Le fait que même si les démocrates semblent sortir massivement présentement, ben il y a un effort qui est non seulement égal à ça, mais qui est même supérieur à ça par la machine républicaine le jour du vote. Et là, ça vient ensevelir dans certains États qui font la différence. Ça pourrait être quelque chose de surprenant.
Il paraît que les démocrates votent beaucoup à l'avance par anticipation, mais que les républicains, eux, le jour du vote, ils sortent, ils montent dans leur auto, puis ils vont voter.
C'est ça. Donc, écoute, tu me demandes une surprise, ça pourrait être une surprise. Ce qui, en ce qui me concerne, serait encore plus surprenant, mais c'est possible, et toi et moi, en fait, on s'en est parlé à l'émission la semaine dernière, c'est que les sondeurs se trompent encore plus qu'ils l'ont fait il y a 4 ans. La raison pour laquelle je dis encore plus, c'est que si, présumant qu'il n'y a rien qui change, là, vraiment de façon substantielle dans les intentions de vote d'ici 8 jours, là, si jamais Trump gagne, l'écart entre les résultats et les sondages qu'on va avoir eu va être encore plus gros que ce qu'on avait eu il y a 4 ans. Puis évidemment, on se rappelle tous de l'espèce de cauchemar pour les sondeurs d'il y a 4 ans. Donc, pour moi, ça serait quand même une surprise assez gigantesque. Justement, dans tout ce temps-là, les correctifs nécessaires n'aient pas été faits pour éviter une autre débâcle au niveau des sondages de la sorte. Mais est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Fait que tu me demandes, qu'est-ce qu'on peut avoir comme surprise? En ce qui me concerne, ça serait vraiment les deux grosses avenues qu'on doit considérer. Parce que, écoute, Donald Trump est rendu dans une position où il n'a comme pas le choix d'espérer que ça soit l'un ou l'autre de ces scénarios-là qu'on voit. Parce que autrement, franchement, je vois mal comment là, il sort un lapin de son chapeau puis il gagne encore cette année.
Si ça arrive, si les sondages se trompent comme ça, il y a un analyste qui disait la semaine dernière aux États-Unis, c'est la fin des sondages. Il n'y a plus personne qui va croire les sondages parce que là, ils sont tellement éloquents à l'heure actuelle que ça semble indiquer une victoire de Biden.
Mais en même temps, Philippe et Raphaël, il y a 4 ans, les sondages sur le vote populaire, ils étaient exacts, là.
Il était pas loin. C'est vrai, c'est un point qui est très, très important, ce que tu viens de mentionner, effectivement, que quand tu prenais la moyenne des sondages à l'échelle nationale, ça finit par être très, très proche de ce qu'on a eu au niveau du vote populaire. La moyenne des sondages au niveau national, c'était à peu près 3 %, ce qu'on donnait comme avance à Mme Clinton. Elle a gagné le vote populaire par 2,1 précisément. Fait que t'as raison. En même temps, ce qui est quand même vrai, c'est que dans les États qui ont fait la différence au collège électoral, on a massivement sous-estimé le vote de Trump. Donc, la question, encore une fois, c'est un petit peu ce qu'on se disait la semaine dernière, c'est-à-dire, est-ce que on est capable de ne plus sous-estimer le vote de Trump? Est-ce que, donc, on corrige pour le fait que peut-être que, d'abord et avant tout, les électeurs de Trump sont moins enclins à même vouloir parler à un sondeur qui les appelle? Et de deux, si jamais ils parlent à ces sondeurs-là, est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas ce qu'on appelle un biais de désirabilité sociale? Autrement dit, des gens qui, dans les faits, vont voter Trump, mais n'osent pas nécessairement le dire à la personne qui les appelle. Question ouverte, mais t'as raison que l'ampleur de la différence entre les sondages puis les résultats finaux l'an passé, il y a 4 ans, était peut-être pas, disons, ce qui était présenté dans le débat public, mais il y a quand même eu un écart. Puis là, on va voir cette année si ça va être corrigé. Là.
OK, être président des États-Unis ou présidente des États-Unis, c'est avoir toutes sortes de pouvoirs discrétionnaires, dont celui de nommer des candidats pour être juge un peu partout dans l'appareil judiciaire et être juge aussi à la Cour suprême. Et là, les opposants des républicains disent souvent les élections ont des conséquences, façon de dire au monde, allez voter. Et là, Trump a fait beaucoup de singeries depuis 4 ans, mais un de ses legs, c'est qu'il va avoir redessiné le visage de la Cour suprême. Ça se joue dans les prochaines heures.
Reconfiguré carrément. Présumant que la candidate qu'il a nommée à la Cour, la juge Amy Coney Barrett, soit confirmée, on prévoit un vote final au Sénat dans littéralement les prochaines heures, là, ce soir, et on s'attend à ce que ça passe. Écoute, il va avoir nommé et fait confirmer le tiers des membres de la Cour suprême en un seul mandat. Ça, il n'y a pas de précédent pour ça depuis le premier mandat de Richard Nixon. Donc, c'est quand même majeur. La question, en ce qui me concerne, qui va subsister bien au-delà du vote de ce soir, c'est qu'est-ce que les démocrates font concrètement s'ils reprennent le contrôle de la Maison-Blanche et du Sénat avec M. Biden et avec une majorité démocrate. Il y en était question dans les dernières semaines, là, cette idée-là de peut-être ajouter de nouveaux sièges à la Cour suprême pour diluer la majorité conservatrice là, qui a été installée en partie par Trump. Ça semble être très, très controversé. Biden ne veut pas répondre, ne veut pas se mouiller à cette question-là depuis des semaines. Mais là, dans les cercles démocrates, ce qu'on évoque de plus en plus, c'est peut-être qu'on fera pas ça avec la Cour suprême parce que justement, c'est une patate trop chaude, mais peut-être qu'on ferait ça avec les tribunaux inférieurs. Donc, tout ce qu'on appelle, par exemple, les cours de district, les cours d'appel. Puis là, ça va peut-être avoir l'air technique puis très secondaire pour les gens qui nous écoutent. Croyez-moi, ça ne l'est pas. Parce que, oui, dans les médias, c'est sûr qu'on parle plus de la Cour suprême parce que, ultimement, c'est souvent elle qui tranche les enjeux, disons, les plus chauds. Mais la réalité, c'est aussi que Et là, ça, c'est une statistique authentique que je vous donne. Là, c'est plus de 99% des causes qu'on loge dans le système de justice fédéral aux États-Unis qui n'aboutissent pas à la Cour suprême. Autrement dit, qui sont décidées au final soit par une cour de district ou une cour d'appel. Autrement dit, un tribunal inférieur. Donc, ce que les démocrates discutent de plus en plus à l'interne, c'est la possibilité donc d'ajouter des dizaines de sièges pendant les prochaines années sous une éventuelle administration Biden. Et là, donc, on aurait une majorité plus à gauche, si on veut, au sein de ces tribunaux-là. Et ça pourrait reconfigurer le paysage judiciaire et par extension, le paysage social aux États-Unis. Et écoute, ça va être un énorme enjeu d'une possible éventuelle administration Biden.
Raphaël, si Mme Barrett est confirmée à la Cour suprême des États-Unis, là, si je me trompe pas, là, dans mon décompte, les conservateurs vont avoir 6 juges et les libéraux vont avoir 3 juges. Écoute, s'il y a une cause qui touche l'avortement, là, on sait que c'est le combat multigénérationnel de la droite aux États-Unis, là, est-ce qu'il y a encore le droit à l'avortement aux États-Unis si Mme Barrett est à la Cour?
Premièrement, peu importe qui est à la Cour, le droit à l'avortement, même s'il saute au niveau fédéral, va rester dans plusieurs États. Ça, c'est la première chose qui doit être dite.
Dans plusieurs États, mais pas dans tous les États.
Mais pas dans tous les États, effectivement. Mais c'est quand même un bémol que je veux poser. Deuxième chose, c'est que il n'y a pas de garantie par rapport à ça. Parce que oui, de façon nominale, de façon officielle, c'est vrai que tu auras 6 juges qui ont été nommés par des présidents républicains, 3 par des démocrates, 6 qui sont plus associés, disons, à la droite qu'à la gauche. En même temps, ce qui est également vrai, c'est que tu regardes, par exemple, un juge comme le juge en chef actuel, John Roberts, qui a été nommé par un président républicain, qui a été dépeint comme un conservateur. Que tu vois comment ce juge-là vote sur des gros enjeux depuis les derniers mois. Il s'est presque rallié à toutes les fois, à toutes les reprises, à l'aile plus à gauche de la Cour. Donc, il n'y a pas de garantie par rapport à ça. Et je t'ajouterais ceci aussi rapidement, qu'on semble oublier, mais dans les années 80, le début des années 90, on avait une Cour suprême qui était divisée exactement comme elle le serait avec la confirmation de la juge Barrett, c'est-à-dire 6 juges qui étaient vus comme étant davantage à droite, 3 davantage à gauche. Et il y avait eu un challenge, donc une espèce de remise en question du droit à l'avortement, de la fameuse cause Roe v. Wade qui était montée jusqu'à la Cour suprême, et à peu près tout le monde se disait, ben là c'est sûr que le droit à l'avortement va sauter, et roulement de tambour, la Cour suprême avait presque entièrement réaffirmé le droit à l'avortement. Autrement dit, il n'y a pas de garantie. Personnellement, je me mouillerais pas là-dessus. Oui, la Cour risque d'avoir un visage plus conservateur, mais est-ce que ça veut dire que du jour au lendemain, ces droits-là qui sont inscrits dans non seulement la Constitution, mais carrément dans les normes sociales aux États-Unis depuis des décennies, est-ce que ça va sauter? Pas nécessairement.
Parfait. Merci d'avoir devancé un peu ton tour de table. Merci beaucoup. Ton tour de piste. Merci, Raph.
Ouais. À demain.